2023, Nicolas Cage nous montrera que porter un costume rouge, ça le rend très méchant. Bienvenue dans Citizen Cage.
Cop car. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What?
I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box. I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast où on parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et je suis comme toujours accompagné par Julien Asunsao. Salut Julien.
Salut Alexis.
Et aujourd'hui, on parle de quoi, Julien?
Eh bah, ben, quel meilleur film que pour se retrouver que Sympathy for the Devil, film voilà. De 2023. Mais on a attendu notre durée légale de 6 mois avant de faire un épisode voilà. Pour vous laisser un peu le temps de le voir. Alors si vous êtes en France, de toute façon il n'est pas sorti en France, donc direct ou VOD on a envie de dire. Donc un film classique d'une certaine ère de Nicolas Cage. Alors en ce moment ça se mélange un peu quoi. On a l'impression qu'il participe à des projets, je dirais pas ambitieux, mais des trucs. Il y a un mélange entre des films genre Dream Scenario. Alors Renfield, paf. En tout cas, il est sorti au cinéma, quoi. Et oui. Un Sympathy for the Devil qui, de mon point de vue, d'une personne qui n'a pas vu le film, fait un peu office de random VOD numéro 73, quoi.
C'est un peu drôle, t'as raison quand tu dis ça, surtout qu'en plus, mine de rien, à côté de ça, on a quand même Nick Cage et Joel Kinnaman dans les rôles principaux, oui. Donc c'est pas n'importe qui, donc on a quand même un cast assez intéressant, et moi, j'ai un problème avec ce film, mais qui n'a rien à voir avec le film en lui-même. J'ai vu le film, j'ai eu la chance de le voir en avant-première au Festival International du Film de Fantasia, puisqu'il s'agit de là où il a été, où il devait être présenté en avant-première. Et il était en présence du réalisateur et était aussi censé être en présence de Nicolas Cage, sauf que c'était au moment où il y avait la grève des scénaristes et des acteurs aux États-Unis. Et le truc qui me rend encore plus fâché de tout ça, c'est que je sais pas comment je me suis démerdé. En fait, si, je sais comment je me suis démerdé. J'avais un pass VIP. Et le pass VIP me donnait l'opportunité de pouvoir m'asseoir
en tant que,
avant tout le monde.
Que podcasteur pour Citizen Cage, je suis sûr que tu as eu le pass VIP.
Non, pas du tout. Je l'ai gagné un concours.
Dis-oui.
Mais je vais essayer l'année prochaine de le demander en tant que podcasteur sur Citizen Cage. Et il faut savoir, il s'avère que j'étais assis juste devant le réalisateur. Donc, dans mes rêves les plus fous, il faut dire que probablement j'aurais eu Monsieur Cage derrière moi. Et ça me rend triste. Donc voilà.
Dommage.
En tout cas, voilà, j'ai vu le film. Le film est plutôt pas mal. Si tu me permets, je vais faire le résumé pour pas que. À moins que tu veuilles le dire.
Je sais pas, je voulais profiter du résumé de Wikipédia et vous exprimer mon profond désarroi face à ce résumé.
Ah bah vas-y, fais ton plaisir.
Non mais je sais pas à quel point. J'ai l'impression que ça a été écrit par quelqu'un qui n'a pas vu le film.
Bah c'est pour ça, vas-y, dis, c'est quoi, moi je l'ai pas vu, lis-le moi.
Après avoir été forcé de conduire un mystérieux passager sous la menace d'une arme, un homme se retrouve dans un jeu du chat et de la souris aux enjeux élevés. J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas vu le film et essaie de broder pour inventer un synopsis. Ça m'indique rien sur le film.
C'est super drôle parce que c'est à la fois
vrai.
Tout à fait vrai, c'est correct avec le film, mais en même temps c'est tellement générique comme
oui,
truc. C'est genre oui c'est un film, il y a des images qui bougent, voilà.
Ce que je sais du film, c'est que c'est un film où il y a peu d'acteurs. A priori,
d'acteurs.
C'est vraiment un truc de On a un duo d'acteurs avec, tu sais, qui sont même pas nommés et tout. Un petit côté collatéral. Je sais pas pourquoi, je pense à collatéral.
C'est très très drôle. C'est un huis clos qui se passe dans une voiture.
Oui, bah.
C'est voilà. Et en gros, oui, voilà. On a le personnage de Joel Kinnaman qui est un chauffeur de taxi. Sa femme attend son enfant, son premier enfant. Et alors qu'il est censé s'en aller pour aller à l'hôpital, il y a une personne qui rentre dans sa voiture, une personne qui s'appelle Nicolas Cage et qui porte une veste en satin rouge qui est incroyable et qui lui explique à l'aide d'une arme à feu qu'il ferait mieux de faire ce qu'il lui demande ou alors ça va mal se passer. Et donc ensuite s'ensuit un jeu du chat et de la souris. Et donc, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait correct, mais...
Donc, pas besoin de regarder les films, tout est là.
Ça ne vend pas le film à sa juste valeur. Puis tu l'as dit, toi, plutôt, tu n'as pas vu le film. Moi, je l'ai vu et je l'ai trouvé quand même bien plus que respectable pour la filmographie de Nicolas Cage. Je ne veux pas en dire plus. Mais j'ai eu grand plaisir de l'avoir vu et je suis en fait assez étonné, plutôt content. Alors il faut savoir que le festival du film de Fantasia a cette qualité que je dirais, il y a une énergie qui se dégage des gens qui viennent voir des films pourris en fait. C'est le goal en fait, ils viennent voir des films nuls. Je dis pas que Sympathie pour the Devil est nul, au contraire, je pense
d'autres l'ont dit pour toi.
Un film correct ? Non, pour moi. Hein, Ah oui, d'autant mieux pour moi et pour Nick Cage. Hein, je veux dire.
Je dis ça parce que film, un des trucs que je connais du film, c'est que sa réception critique est pour le moins mitigée, quoi.
Oui, mais
donc
mais
tu m'intrigues un peu.
Quand je dis il est pas pourri, c'est qu'il est pas nul, quoi. C'est pas un film nul qu'on est allé voir pour se moquer, quoi. C'est un film qui est somme toute correct, mais il faut reconnaître que Fantasia a cette énergie qui sort, et il est possible qu'en le revoyant tout seul, je vais pas du tout avoir la même opinion du film, parce que voilà, donc je préfère mettre ce petit caveat avant qu'on se lance
oui, et puis je vois ça.
Visionnage.
Et puis il y a, alors je sais pas à quel point c'est le cas, mais le côté huis clos, peu de personnages, donc du coup, beaucoup de temps à l'écran pour Nicolas Cage. Donc du coup...
Et pour Joel Kinnaman, oui.
Oui, non mais, en l'occurrence... Celui qui nous intéresse.
Oui, oui.
Non, mais il y a ce côté aussi.
Bien sûr.
C'est un film pour nous, quoi. Dans le sens où.
C'est.
Oui. Étude d'un acteur. Si tu me dis, l'acteur, il est là, il est à l'écran 90% du film, tu dis, bon, on va avoir beaucoup de données, quoi. Donc.
Et puis, il faut reconnaître que, je sais pas pour toi, mais après 101 films à l'avoir vu, j'ai un petit peu un côté pavlovien avec Nicolas Cage. Je le vois à l'écran, je suis content. Donc c'est vrai que. T'as raison, on est un peu biaisé là-dessus, mais au moins t'as raison, on va avoir à boire et à
manger. Un bel objet d'étude.
Voilà.
Et c'est un des trucs qui me donne un peu envie d'avoir le film, en dehors du fait que tu m'en dépeignes un tableau qui est pas si négatif, c'est que ouais, le côté huis clos machin et tout, je me dis c'est intéressant, c'est le genre de film qui déjà il y a une espèce de petite prémisse. Qui vient pas du scénario, vu que du coup, j'ai aucune idée de quoi ce qui va se passer. Mais dans le concept, j'aime bien en fait les. Il y a pas mal de films qui sont un peu minimalistes dans leur setting, qui vont m'intéresser et me plaire. Donc voilà, c'est le petit truc qui fait que en vrai, j'exagère un peu quand je disais random VOD quoi. Il y a le petit twist qui titille un peu la curiosité, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré un épisode, donc écoute.
Ça fait plaisir. Voilà. Mais la dernière chose que je dirais, la chose que moi je me souviens vraiment, c'est tu vois, ce genre de huis clos, ce genre de film-là, il est extrêmement. Surtout quand c'est vraiment un à un, là, face à face. C'est extrêmement contingent, deux acteurs qui sont capables de se donner la réplique et de se donner à manger, en fait. Et il faut reconnaître que Joel Kinnaman fait un. Moi, j'ai trouvé ça. Super intéressant. On a deux bons acteurs qui se passent la balle et je trouve que moi mes problèmes sont peut-être plus avec le pacing que ça. Donc, je suis très intéressé à le revoir, justement, à tête reposée, et de voir, est-ce que ça tient toujours la route, ou alors est-ce que, comme je disais, c'était Fantasia, tout le monde était content. Parce que oui, il faut reconnaître que quand Nick Cage arrive avec sa veste et que t'as 500 personnes qui gueulent parce qu'ils sont tous refaits qu'il y a Nick Cage à l'écran, l'énergie n'est pas la même. Donc voilà.
Ok. Bah, let's go.
Eh ben, allez. On se retrouve à tout de suite, tout le monde.
Sir, my wife is in the hospital. She's about to give birth.
Drive.
This is a family emergency.
I'm your family emergency now.
Et on est de retour après avoir vu Sympathy for the Devil de Yuval Adler. Comme moi je l'avais déjà vu, je vais te laisser nous donner une petite opinion de ce film, Julien.
Ouais, si je me rappelle bien, en intro, tu avais été plutôt positif sur le film. Et j'avoue que moi, j'avais pas du tout confiance en toi, évidemment. Non, mais je savais déjà que les retours étaient globalement plutôt négatifs sur le film. Et j'étais surpris par ton retour et comment il clashait un petit peu. Alors, tu disais pas que le film était exceptionnel et les critiques disent pas que c'est le pire film du monde, mais il y avait quand même un écart entre les deux de ce que je voyais. Et c'est vrai que c'est limite, tu vois, là c'était le point qui me donnait envie. Tu sais, il faut toujours qu'on trouve un peu une motif pour regarder des fois certains films qui font pas rêver des fois sur le papier. Et là mon point, un peu de mon angle, c'était un peu ça, c'était de me dire tiens, étonnant. Et ouais, j'avoue que je vais plutôt me pencher de ton côté. Hein. Je suis étonné de la mauvaise réception du film. Et encore une fois, pas un film exceptionnel. Vraiment, là, je peux comprendre qu'on passe à côté du film, mais je trouve que c'est un film qui a quand même beaucoup de qualité. Notamment, t'as cité son réalisateur. Franchement, j'ai trouvé qu'il faisait un taf intéressant, tu vois, par exemple. Yuval Adler, je me suis dit, tiens, pourquoi pas suivre un peu ce qu'il va nous proposer par la suite. Après, je suis d'accord que globalement, au niveau de son scénario, j'imagine que des gens peuvent lui reprocher sa non-subtilité. Mais je pense pas que c'est un film qui se pense spécialement intelligent. Et du coup, ça m'a pas gêné. Tu vois, il y a des moments où j'imagine que tu peux... Si tu penses que le film est beaucoup trop premier degré et se pense trop intelligent, ça peut t'énerver. Peut-être que c'est un truc qui a pu agacer certaines personnes et expliquer des mauvaises notes. Je l'ai pas ressenti du film et du coup je suis plus clément là-dessus peut-être. Mais on l'a peut-être déjà dit en intro, mais en tout cas c'est sûr que c'est un film pour nous. Dans le sens où c'est un film qui permet d'étudier. Alors Nicolas Cage est très très mis en avant.
Oh oui.
Effectivement. Mais de toute façon, toutes les reviews que j'ai vues parlaient que de Nicolas Cage, globalement.
Ce qui est un peu triste, parce que Kinnaman est vraiment pas mauvais dedans.
Non, genre... en vrai, ça parlait un peu de lui, j'exagère. Non, mais globalement, ça parlait surtout de ça. Même des gens qui n'avaient pas forcément mis des bonnes notes ou machin comme ça, j'avais du mal à voir en fait, ce que les gens reprochaient au film, parce qu'ils parlaient que de Nicolas Cage.
Ouais.
Et c'est vrai que par contre, en étant en côté étude de cas pour nous, on dirait que c'était le film Citizen Cage.
C'est fait pour nous. Puis, tu vois, c'est un peu drôle, tu disais ça. Ouais, voilà, l'espèce de... comment dire? Peut-être un problème de ton où les gens, justement, peut-être que se disaient « Ah, c'est peut-être plus sérieux que ça devrait être. » C'est sûr que, tu sais, moi, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est un film que j'ai vu à un festival... avec le réalisateur qui était là, et pour moi ça a été extrêmement clair dès le départ, puisque le mec présente le film, que non, on n'est pas là pour être... Bon, il y a un certain pathos dans le film, il y a une certaine envie d'être un minimum sérieux, ou de délivrer, on va dire, une histoire qui est... c'est pas une comédie du tout, hein, c'est un drame, mais c'est très clair quand on entend parler le réalisateur du film, que le gars, il y a des moments où, en fait, non, c'est pas tout le temps super sérieux, c'est pas tout le temps incroyable. Et comme tu disais, pour Nicolas Cage, pour nous, même là aussi, c'est où le gars, il était là avec son micro et il nous explique, non, il y a des moments, vous allez voir, Nick Cage, la moitié du temps, je lui dis rien, quoi. Je lui demande, il joue comme il a envie de jouer, quoi. Dès qu'ils lui ont mis la veste sur son... Parce qu'il porte une espèce de veste en satin rouge, là. Dès qu'ils lui ont mis la veste sur le truc, le gars, il était dans le personnage, puis il était parti, quoi. Donc, enfin, il y a tous ces trucs-là. D'ailleurs, petit truc un peu amusant, le réalisateur était venu avec la veste que Nick Cage porte dans le film, ce qui est un petit peu drôle.
Bah, c'est la sienne, il l'avait juste prêté.
Probablement. Mais il y a ça,
petit
quoi.
Petit budget.
Il y a ça. Et puis, pour revenir un peu sur ce que tu disais, ouais, réalisation est vraiment pas dégueulasse. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la cinématographie. Elle est très très belle, même pour un film de Nick Cage, quoi. On a vu des films qui étaient bien pires que ça.
Il y a des enchaînements de plans où je me disais, bah putain, c'est beau de ouf. Hein.
Ouais. Quand ils se baladent dans
Las
Vegas.
Et je pense
Las
pas
Vegas,
que ça a coûté super cher, donc.
Bah non, parce qu'au final, honnêtement, c'est une bagnole. On roule dans Las Vegas et après, apparemment, donc c'est un des premiers films à avoir été filmé. À Las Vegas, dans un studio spécifique avec des écrans à LED pour quand ils roulent, en fait. En gros, ils sont pas en train de rouler vraiment. Mais ça marche super bien parce que, ouais, t'as des réflexions sur la voiture et tout ça, et ça fait pas fou.
Oui, bah, les effets de lumière.
Ouais.
Ça joue beaucoup, vu que c'est un film qui se passe de nuit.
Ouais.
Ça se joue beaucoup là-dessus, en fait. Beaucoup. On met un truc sombre et on met de la lumière vive à côté, notamment des trucs de police, de voiture de police. Mmh. Et c'est joli, quoi. Un peu côté néon, machin et tout, qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais même dans la composition des plans et tout, franchement, il y a plein de moments où je dis, bah, je suis surpris car c'est stylé.
Et puis c'est vrai que, tu sais. Puis en plus, c'est un peu drôle parce que quand tu regardes, on va dire, le calibre de ce genre de film, c'est le genre de film que, en fait, quand tu lis un peu le synopsis, quand tu vois qui est involved dedans, tu te dis, bon, ça va finir sur Prime Video ou sur Netflix, dans le back catalogue un peu. On sait que ça va pas être un gros truc. Donc, des fois, tu t'attends souvent à ce que la production value soit un peu moindre ou qu'il y ait un peu moins de qualité. Et honnêtement, non. Puis surtout, je pense que une grosse, grosse force de ce film-là, c'est que, comme on disait dans l'intro, c'est un huis clos qui se passe dans une voiture et un diner. C'est pas mal les deux gros endroits. Et honnêtement, avec peut-être 5-6 acteurs dans tout le film, quoi. Et je pense que le gars, il a vraiment capitalisé là-dessus parce que c'est beaucoup des plans sur leur face et à Kinnaman et à Cage. Cage qui est flamboyant, c'est le terme, au possible, et qui joue Il y a vraiment une différence, en fait, entre Cage qui, lui, est énergique, complètement pété, et Kinnaman qui est genre introverti, plus calme, et on se retrouve, en fait, avec, moi je trouve, un thriller qui tient la route, en fait, un thriller qui tient la route, sans être, comme on dit, sans être le truc le plus exceptionnel, mais tu sais, voilà, quoi.
En fait, c'est un thriller qui pourrait avoir un aspect twist,
oui,
mais en fait, et tu pourrais dire, ah ouais, bah du coup c'est raté parce que le twist je l'ai vu venir. Mais en fait je pense que le film il s'en fout de ça.
Ouais, il n'y a pas de...
J'ai l'impression qu'on en parle régulièrement un peu de ça, de ce thème-là, de... Si ton film il tourne autour de ton twist, déjà ça se revoit mal et puis tu peux rater le truc. Mmh. Moi j'ai pas l'impression que là le film il essaye d'être ce genre de film-là, quoi. Il essaye de faire monter une tension, machin, de créer un mystère. Mais bon, j'ai pas été très surpris de la fin, quoi.
Non, et puis surtout...
Et c'est pas grave. C'est pas très grave, quand même.
Ce qui est drôle aussi, c'est que, enfin, je veux dire, pour moi, il y a aucun intérêt à faire un film où le twist, c'est pas le cas. Tu vois, enfin, je veux dire, t'imagines si
oui,
t'avais tout le film...
Faire surprenant juste pour faire surprenant. Ouais. Et que ton film, du coup, il a aucun sens.
Parce que si t'arrives à la fin et que Nick Cage te dit, ah bah non, en fait, c'est pas vrai. Genre, bah, c'est nul. Donc,
tu m'as juste arnaqué, mec.
Ouais, voilà, c'est stupide.
Non, mais...
Donc,
Mais tu vois, je pense que c'est ça qui peut être mal interprété. Enfin, mal interprété, ça se trouve, c'est nous qui interprétons mal, attention.
Oui, bien sûr. Hein.
Mais qui peut être interprété, en tout cas, différemment, et du coup, être un reproche. Et quand je parlais de ton tout à l'heure, tu vois, par exemple, il y a pas mal de moments dans le film où la musique est très importante dans le film. Enfin, des chansons plus que la musique, ouais, pour être plus précis. Et où les paroles des chansons font écho à ce qui se passe dans le film de manière peu subtile. Et ouais, non, mais tu peux avoir deux raisons à ça. Tu peux dire, ah, oh, il pense qu'il est trop intelligent, putain, il est casse-couille. Oh. Ou tu peux dire, ouais, c'est marrant, il fait ça second degré.
Ouais.
Et je pense que c'est plutôt la deuxième option, ou en tout cas qu'il est conscient que c'est un peu balourd.
Ouais.
Comme il y a un moment où Nicolas Cage il dit ah non, je veux pas vous spoiler. Il regarde, il fait un regard caméra.
Ouais.
Bon, on comprend qu'il parle à nous, quoi. tu peux avoir envie de lever les yeux au ciel,
ouais,
ou tu peux te dire oh, ça va.
C'est je sais que c'est quoi à dire, mais parce que c'est un peu en train de devenir ma marque de, je pense, après 4 ans de Nicolas Cage, là, de toujours dire, moi, mon truc, là, c'est que si je suis capable de, une bière des potes et on regarde un film pendant qu'on discute, c'est sympa et on passe un bon temps, je suis très content, puis c'est clairement le genre de film qui marcherait très bien pour ça, tu vois.
Ouais, bah, ça aussi, on l'a déjà abordé, je pense que tous les deux, on apprécie aussi des films qui n'ont pas une ampleur,
oui,
qui visent pas quelque chose de trop grand. Et celui-là, je pense qu'il rentre pile poil là-dedans. C'est-à-dire que ça me paraît compliqué que quelqu'un dise qu'il trouve le film exceptionnel et que c'est dans les meilleures expériences qu'il a eues de sa vie.
Ouais.
Et en même temps, bon visionnage, agréable, pour ma part, quoi.
Il
rentre pile poil dans ce truc de... Et en plus, voilà, j'ai fini le film et j'ai plein de trucs à dire sur le film. J'en ai ressorti plein de trucs et il avait des choses intéressantes. Et effectivement, les choses les plus intéressantes, c'était pas son scénar. Et encore, je trouve qu'il, même là-dessus, il fait plein de trucs bien.
Il est pas mauvais,
le rythme
son
est bon
scénar,
et tout, ouais, tu vois.
Et surtout, on l'a dit au début aussi, hein, c'est un film de 90 minutes.
Il
se finit. Et alors, tu vois,
parce qu'il sait ce qu'il est.
Voilà. Mais il y a peut-être ça aussi qui. Et je pense que c'est peut-être devenu quelque chose d'un peu bizarre, c'est que j'ai l'impression, en fait, comme on consomme énormément maintenant en tant que société, de la télévision aussi, tu sais, avec Netflix, ce genre de trucs-là, peut-être que, en fait, une personne qui voit un film d'une heure vingt, ils se disent, ça aurait pu être un épisode d'une série, puis c'est tout. Et peut-être que ça gâche un peu certains. C'est un peu bizarre comme concept.
Alors que moi, quand je vois un film d'une heure et demie, je rajoute 5 points à la
note. Mais parce que maintenant, tu vois, dans notre zeitgeist culturel, on est obligé soit d'avoir des gros blockbusters, soit des trucs complètement pétés qui viennent de chez A24, tu sais, et puis c'est tout. Donc c'est un peu dommage, on perd ce genre de film-là. Parce que tu vois, genre, Sympathy for the Devil, c'est le genre de film, tu l'aurais sorti dans les années 90, un truc comme ça. Bon, il n'aurait pas non plus fait des milliards de dollars, mais ça aurait été un excellent film dramatique dans une année pas trop chargée, quoi. Donc,
non, mais c'est typiquement un film dans les années 90 qui sort au cinéma sans aucun souci, quoi.
Voilà, oui. Et qui fait un minimum de retour sur investissement. Alors que là,
le petit thriller sans grande ambition, mais où tu seras. T'auras passé un bon moment qui repassera bien à la télé derrière.
Voilà. Et on a perdu ça. Je trouve ça dommage. On a vraiment perdu ce pan du cinéma. Ça n'existe plus. Maintenant, ça devient du direct to DVD. Et du coup, parce que ça devient du direct to DVD ou du direct to streaming, beaucoup de gens vont leur appliquer une. Vont dire, ça doit être de la merde. Alors qu'au final, non, t'as quand même des trucs super compétents. Et celui-là, tu sais, je veux dire, puis nous, tu sais, on s'en est tapé, là, des directs ou DVD pas compétents du tout, là. Ouais. Celui-là, c'est pas du tout.
Les trucs qui étaient cyniques.
Bah oui. Oui, voilà. Et ça, c'est vrai, t'as raison. C'est parce que ce film-là, déjà, quand tu le vois, t'as pas l'impression que derrière, c'est des gars qui ont juste voulu faire de l'argent.
C'est ça.
Parce que déjà, si c'était le cas, ils en avaient pas fait, donc c'est triste. Ça n'aurait pas fait.
Ouais, c'est raté. Bah, c'est raté. Vous n'avez pas visé ça parce que ça aurait été raté. Non, mais il y a une envie de cinéma, quoi.
Voilà, et je t'avoue, comme je te le dis, moi j'ai cette perspective-là. En plus, le fait d'avoir eu le réalisateur avec nous qui était genre qui a parlé pendant genre 15 minutes plus que qu'il devrait parler avant que le film commence parce qu'il était complètement excité, il voulait nous expliquer, il était genre « Ah, Nicolas Cage, il peut pas être là, mais ah oui, il a fait ci, il a fait ça, c'était drôle. » T'es genre « Ok, ouais, le gars, il était content d'avoir fait le truc, il a essayé, quoi. » et comme tu disais un peu plus tôt, ouais, moi, je... Alors, je sais pas si le gars va finir par faire d'autres choses.
Bah, en fait, c'est ce qui est marrant, et... c'est que justement, je voulais embrayer là-dessus, c'est que j'ai regardé un petit peu, du coup, ce qu'il avait fait d'autre. Et dernièrement, il a quand même pas mal tourné. Il a fait un film en 2020 et un film en 2019. Oui, c'est ça, 2019, ouais. Qui sont tous les deux notés assez mal, comme, comme celui-ci, comme Sympathy for the Devil. Et il y a un autre film avec Kinnaman et Noomi Rapace. Donc, tu vois, c'est un peu, on est un peu dans le même... dans le même genre de film où a priori c'est aussi un thriller et c'est dirigé par t'as Kinnaman et quand même une actrice qui est quand même pas n'importe qui. Bah, oui. Et son autre film c'est aussi un thriller, aussi plutôt mal noté, et là cette fois tenu par Diane Kruger et Martin Freeman. Donc tu vois, je me dis, est-ce que les autres films, on aurait le même avis?
Peut-être.
De se dire, bah c'est mieux que, enfin on apprécie plus que ce que la moyenne à apprécier, ou ça lui a marché, notamment parce qu'on a l'angle Nicolas Cage qui nous a faussé un peu le truc, même si je pense pas, et les autres nous plairont pas. Mais tu vois, ça m'intrigue un peu de me dire, putain, c'est bizarre quand même.
Mais déjà, tu vois, le simple fait que Kinnaman a fait deux films avec lui, même si bon, peut-être que Kinnaman avait besoin d'argent aussi, hein, on le sait pas, mais tu sais, moi j'ai toujours l'impression que si tu refais un film avec le même directeur, c'est que t'as au moins un minimum de... C'est que t'as au moins apprécié ton expérience, là. Parce que c'est oui. Pas ce genre de film-là qui vont te permettre de te payer une bagnole. Hein. Je pense pas que tu dois être payé des 1000 et des 100 pour faire ce genre de film. Donc je pense qu'au moins, tu dois avoir un minimum de tu sais, tu t'attaches à la personne un minimum, quoi. Donc je pense que... Ouais, moi je serais plutôt curieux en fait de voir ces autres films, tu vois. Mais par contre c'est déprimant un peu quand tu vois justement que ces trois films, tu vois ces budgets qui sont pas non plus exceptionnels, hein, c'est des films qui sont faits à 5-10 millions là, et qu'il y en a aucun qui soit rentré dans ces frais.
Alors ouais, après, mais du coup je comprends pas pourquoi il en a fait autant de films.
Bah après, alors tu vois, c'est toujours le truc.
Tu vois ce que je veux dire ?
Le box office, c'est l'été au cinéma, quoi. Donc c'est sûr qu'après, s'il arrive à vendre ses films à Amazon Prime, à machin, à truc, peut-être qu'il rentre dans ses frais, mais c'est parce que je pense que c'est parce qu'il a envie de faire du cinéma, le gars, quoi, un minimum.
Ouais, d'accord, mais ouais. Bon, on sait que si je suis d'avoir envie.
Ah oui, faut arriver à convaincre.
Non, mais c'est étonnant de voir quand quelqu'un a à la fois pas forcément des bons retours critiques et pas forcément beaucoup de rentrées d'argent, a priori, qui fait des films, qui fait pratiquement un film par an, quoi.
Oui. Et puis, comme on dit, pas avec n'importe qui, tu sais. Il arrive quand même à... Il doit avoir un bon agent de casting, là, parce que le mec, il arrive à convaincre des gars qui sont quand même pas dégueulasses.
Pas forcément sur la pente descendante, ou... Enfin, après, je vais pas dire... C'est pas les plus grosses rostas du monde, mais... Non. Mais quand même, quoi.
Tu sais... On s'entend, comme on dit, voilà, Joel Kinnaman, c'est peut-être pas forcément le gars qui est le plus bankable au monde, mais je pense qu'il a quand même un minimum de choix sur certains des projets qu'il peut faire. Nick Cage, on le sait qu'il a des choix maintenant, il fait ce qu'il veut. Bon, on sait aussi qu'il fait tout et n'importe quoi, mais ça c'est autre chose.
Ouais.
Mais, je veux dire, c'est quand même intriguant. Moi ça m'intrigue, ça me donne envie d'aller voir un peu plus ce qu'il fait. Mais en tout cas...
Pareil.
On peut commencer à parler un petit peu plus en détail, oui, de Sympathy for the Devil, qui commence avec, honnêtement, un petit passage qui pète la classe, où on a donc Joel Kinnaman qui joue David Chamberlain, qui est un gars dont sa femme est à l'hôpital parce qu'elle va accoucher. Voilà. Et qui est en train de parler avec son fils dans sa voiture. Parce que je me souviens plus, mais pas avec son fils. Non,
bah, si, en fait, en gros, il est en train de poser son fils chez sa mère,
ouais,
ou la mère de sa femme, je sais plus, parce que lui, il doit ensuite aller à la maternité. Et mais j'avoue que dès la première scène, j'étais perdu. Je me dis, ok, bah ça va pas être ce que je pense. Parce que non, mais ça commence où je sais pas, c'est son fils qui a les des images d'échographie en dans la main et qui regarde quoi. Et il parle de d'une fausse couche ou en tout cas d'une complication au moment de l'accouchement qui a eu donc sa mère précédemment quoi. Donc ça commence sur un truc un peu dark et tout. Je trouve que ce dialogue est plutôt bien écrit, ce qui ne sera pas le cas de forcément tous les dialogues du film, hein, parce que ça, non mais ça fait partie des défauts effectivement. Il y a quelques fois où tu te dis bon ouais, ça manque un peu de subtilité dans la plume. Mais écoute, il faut bien que bah, voilà, le film a des défauts. Hein.
Bien sûr.
Mais celui-là, tu vois, il commence assez bien en fait dans l'écriture et même tu vois Kinnaman et dès là, je trouve que c'est je sais pas, il y a un truc dans l'image et tout, je me suis dit, ok. Alors, peut-être très numérique, quand même, sur le tu vois, sur le visuel, c'est très... Est-ce que ça peut mal vieillir?
Ouais.
Je pense. Et ça peut ne pas plaire. C'est pas forcément une imagerie que moi me passionne, mais il fait des choses réussies. Mais il y a quelques moments où sur les visages des acteurs, tu te dis ah ça fait très numérique quand même.
Ouais ouais. Mais bon. Même là, tu vois, moi je te dirais, il y a des choses.
Ça fait des belles images.
Voilà, il y a des choses qui vont bien moins bien vieillir que ce truc-là, je pense. Puis ça fait des belles images. On rencontre assez rapidement le deuxième personnage de ce film, puisque après un petit peu plus d'exposition dans lequel Joel Kinnaman parle avec son patron pour lui dire ah, prends ton week-end, tout va bien, c'est pas, y a pas de problème, il arrive à l'hôpital et avant qu'il ait le temps de descendre de sa voiture, un mec un peu chelou qui lui regarde de loin, qui porte une veste rouge en satin et qui s'est teint les cheveux en rouge parce que apparemment c'est censé être le diable. Voilà, d'où le titre « Sympathy for the Devil » du film, décide de s'introduire dans la voiture de David Chamberlain, le braque avec un gun et lui dit « Ben maintenant, tu vas déjà choisir une carte. » Apparemment, ça a l'air très important pour lui de choisir une carte.
Un tour de magie très nul parce que j'avais donné la même carte aussi. Parce que tout le monde donne ça comme carte quand tu sais pas, quand on te demande sur le spot, quoi. Je sais pas, en tout cas, moi j'avais la même. Hein.
Ok.
Alors peut-être parce que j'ai pensé à la chanson de Motorhead.
Qui était pas juste derrière, non?
Non, ils l'ont pas mis. J'ai cru.
Ouais, je me disais.
Mais effectivement, Nicolas Cage rentre, le pointe avec son flingue, et là, il parle et tout. Et je me suis dit, ouf, on est parti pour un ride là. Là, on va avoir du Nicolas Cage qui n'essaye pas de bien jouer. Enfin, qui n'essaie pas de jouer réaliste.
C'est ça. C'est pas du drame.
Il est là pour nous régaler.
C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que on a un film qui est un film dramatique. Vraiment. On a un film dramatique avec un Joel Kinnaman qui, lui, est là pour nous donner du drame. Début, fin, milieu, tout.
Ouais. Drame. En fait, t'as l'impression qu'ils sont pas dans le même film.
C'est ça. Et en face, t'as un Nicolas Cage qui, lui, est là. Il est là pour jouer le diable. On lui a dit, tu vas jouer le diable. Et le gars, pour lui, le diable, c'est le diable de...
Tasmanie, malheureusement.
Non, pas jusque-là. Non, mais tu sais, comment il s'appelle le film de Jack Black, là, de...
Tenacious D, The Pick of Destiny.
Ouais, The Pick of Destiny, avec Dave Grohl qui joue le diable, bah, c'est ça. C'est,
ouais, une chanson c'est, incroyable.
C'est, ah oui, un film exceptionnel si vous l'avez pas vu. Oui. Mais c'est vraiment ça. C'est lui, il vient jouer le diable, des cartoons quoi. Mais avec un côté que je trouve particulièrement sympathique, c'est ce côté là où il le ramène dans le réalisme, on va dire, c'est le côté tendu. Mais je pense que c'est aussi parce que Joel Kinnaman le joue extrêmement bien, le fait que c'est un peu drôle, c'est... Je sais pas comment t'expliquer. Je veux pas forcément mettre cette image dans la tête des gens parce que ça va peut-être pas donner le bon truc, mais c'est un petit peu comme quand tu joues à un jeu, que tu crées ton personnage, mais que t'as fait un personnage complètement pété, et qu'après il apparaît dans une cinématique, mais qui est genre super sérieuse, et que t'as genre un mec qui est genre avec les cheveux roses et costume tout pourri, alors qu'il y a des gars qui sont en train de pleurer. C'est un peu quoi.
Grosse scène de drame, ça c'est bien. Là, on est sur du Bethesda. Bethesda. T'as créé ton personnage, là, t'es dans une signature de Skyrim ou de Fallout.
Ouais.
Et d'un coup, t'as un mec avec les cheveux roses, des oreilles énormes et sans nez qui apparaît. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, je tiens à préciser aux gens qui n'ont pas vu le film que écoutez bien ce que dit Alexis et divisez à peu près par 10. Tout ce qu'il dit.
Oui.
Parce que clairement, Tenacious D, c'était une comparaison très osée. C'est... Juste Nicolas Cage exagère un peu sa façon de jouer.
Non, point. Mais quand je dis que lui, il est là pour. Oui, t'as raison. Quand je dis que lui, il est là pour jouer le diable cartoon, c'est par-dessus le côté dramatique qu'on lui demande quand même de mettre. Et que je pense qu'il amène. Mais c'est qu'il y a des moments où il est juste genre. Il y a des... Moi, je me souviens quand t'es dans le cinéma, là, t'as genre 500 personnes autour de toi et t'as ces espèces de rires, mais nerveux. Parce que tout d'un coup, Nick Cage fait un truc qui est complètement pété et personne s'y attend et tout le monde est genre.
Mais tu vois, je peux très bien imaginer que t'es dans un cinéma, le moment où Nicolas Cage parle pour la première fois, que les gens applaudissent. Quoi.
Ah oui.
Il y a ce côté. C'était clair. Parce qu'il y a ce côté. Ok, c'est en fait il joue le Nicolas. Moi c'est le ressenti que j'ai pendant ce film. C'est Nicolas Cage joue le Nicolas Cage que les gens connaissent.
Qui veulent voir. Ouais.
Que les gens qui connaissent peu Nicolas Cage s'imaginent qu'il est.
Ouais.
Donc il dit ok, vous voulez du Nicolas Cage, je vais vous faire du Nicolas Cage. Ce qui, pour résumer un peu. Ce qu'on va sûrement aborder en plus longuement par la suite, je mettrai pas sa performance m'a pas plu plus que ça de ce côté-là. Enfin, après, il met les potards plus ou moins forts selon les moments du film, donc c'est un peu délicat. Mais les moments où il est vraiment dans le côté regardez, je vais vous faire marrer en faisant les gros yeux. Bon, j'avoue que moi, on a déjà vu. C'est pas les moments que j'apprécie le plus, voilà.
Tu vois.
C'est marrant, y a pas de souci.
Ouais.
Mais le film, ça reste décalé un peu dans le ton avec le film quand il est dans les moments les plus extrêmes. Quand il est au milieu, ça marche bien parce qu'il y a vraiment ce côté et Kinnaman le joue bien. Faut que je fasse pas trop le con avec le fou qui vient de rentrer dans ma voiture parce que ça peut partir en cacahuète, quoi.
Je pense que c'est ça la grande force de ce film, en fait. Déjà, je dirais, moi, je trouve, par exemple, tu vois, que Nick Cage, dans ce film-là, délivre plus ce que j'avais envie dans Un talent en or massif. Tu vois, qui est plus une image imagée de Nicolas Cage, comme on disait, et qui est moins surjoué par rapport à lui-même. Enfin bref. Et c'est ça, c'est la grande force de ce film-là, je trouve. C'est que, parce que, comme tu disais plus tôt, il y a beaucoup de gens parlent de Nick Cage, mais je pense sincèrement que tu mets quelqu'un d'autre en face de lui, le film est complètement pété. Parce que la raison pour laquelle Nicolas Cage peut se permettre d'aller aussi loin...
Genre Nicolas Hoult.
Ouais.
C'est un exemple au hasard.
Pour ne pas rappeler le film qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Renfield, si vous voulez aller l'écouter, pourquoi pas. Et le fait est que, en fait, je pense que Nicolas Cage a pu se permettre d'aller aussi loin parce que de l'autre côté, t'as un Joel Kinnaman qui, lui, regarde le mec et complètement effrayé. Il n'y a pas un moment dans ta tête où tu regardes le personnage de David Chamberlain et tu te dis pas, lui, il est en train de se battre pour sa vie et il sait ce qui se passe. Tu sais, oui, d'accord, t'as un gars qui est en face qui fait un peu le guignol, mais de l'autre côté, la gravitas et le pathos, il est là parce que Kinnaman est en mode, moi, je me chie dessus en ce moment. Et je pense, tu vois, voilà, sincèrement, t'aurais mis un gars en face qui est pas capable de jouer ça. Eh ben la balance aurait été complètement détruite et tu aurais eu un Nick Cage qui aurait juste fait du Nick Cage pour faire du Nick Cage et ça aurait pas été drôle.
Et puis je trouve qu'il y a un autre truc qui est une réussite liée à ça et je ne sais pas à quel point c'est fait exprès ou c'est un contre-coup un peu miraculeux. Mais pour aller au bout de ma réflexion,
vas-y.
Je vais devoir juste avancer un peu sur le scénar.
Très bien.
Mais parce que bon, donc là, de toute façon, c'est assez simple au niveau du scénar. On va pas, je vais dire une phrase, ça va, il y aura 30 minutes du film qui seront passées. Là, l'idée, c'est Nicolas Cage dit à Joel Kinnaman, bon, tu sors de l'hôpital, et tu conduis, vas-y, et je te dis où tu vas. Et donc, il quitte l'hôpital, et là, Kinnaman, c'est, bah, il dit, ok, mais qu'est-ce que tu me veux? Enfin, il essaie de comprendre, et on comprend que Nicolas Cage essaie de l'amener quelque part, quoi. Il lui explique vite fait, je sais plus à quel moment il lui explique quoi, mais je crois que pour l'instant, il lui dit vraiment rien. Il se rend compte qu'ils ont plus trop d'essence, donc ils s'arrêtent dans une station essence. Là, il y a Kinnaman qui essaie de faire une espèce d'appel à l'aide. Bon, ça marche pas. Donc ils repartent. Et là, Kinnaman fait exprès d'aller trop vite, d'être au-dessus des limites de sécurité pour que la police les repère, quoi. Il se dit, ah, ça va être ma porte de sortie. Donc effectivement, un policier les repère. Nicolas Cage finit par lui dire, ok, bah arrête-toi. Et là, on est toujours donc le côté cartoon là ressort à ce moment-là, et c'est le cas tout du long. Tout du long, là, de, juste pour qu'on arrive à ce point-là, Nicolas Cage fait juste ce qu'il faut de plus que pour qu'on se dise ouais, il fait les rigolos, il est un peu limite. Voilà, c'est pas une créature de notre univers, tu vois.
Ouais.
Il est décalé, et donc là, l'idée c'est qu'il veut pas se faire choper, quoi. Et donc quand le policier les arrête. Nicolas Cage, qui fait un truc un peu bizarre, son personnage, c'est il commence à provoquer le flic et tout.
Ouais, il provoque l'autorité. Et là,
je rebondis sur ce que je disais. Il y a un truc, un contre-coup du Nicolas Cage cartoon qui marche bien, c'est que là, Nicolas Cage abat le flic de sang-froid.
Ouais.
Et en fait, ça surprend parce que ce n'est pas cohérent. Enfin, tu te dis, il est cartoon, il va pas faire ça. Et en fait, là, surtout de la façon dont c'est filmé, ça te surprend parce que s'il y a pas, c'est à la fois, il y a une espèce de montée en puissance parce qu'il y a un échauffement entre lui et le flic parce qu'il le provoque. Et en même temps, il sort pas son flingue et il pointe le flic. Non, non. Juste, il tire un peu à couvert, quoi.
Ouais, sans sommation, il y a pas vraiment de...
abattu direct. Là, Nicolas Cage sort de la voiture et lui met 3 balles dans la tête. C'est même plan un peu gore. Et là, l'écart entre le côté, le jeu un peu cartoon de Nicolas Cage et la violence un peu brute de cette scène et surtout la froideur que va avoir Nicolas Cage quand il va finir d'abattre le policier. Le décalage qui est créé, il provoque quelque chose, quoi. Et je sais pas jusqu'à quel point c'est maîtrisé et c'est un choix ou pas. Ça, je saurais pas dire.
Il y a quelque chose, ouais, voilà. qui commence. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que t'as ce côté-là. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire que, voilà, comme on dit, t'as Nicolas Cage qui rentre dans la voiture au début. Il est un peu con. Oui, il a son arme à feu. Oui, il est un peu dangereux. Mais mis à part le visage de Kinnaman, t'as pas vraiment l'impression que c'est le cas, parce que voilà, Nicolas Cage cabotine, il raconte des conneries, il hurle sur l'autre quand il essaye de parler, il lui dit des trucs comme genre « Ah, tu devrais pas essayer de me donner de la sympathie pour toi en me racontant ta famille, j'en ai rien à foutre, moi je vais te parler de la mienne, puis voilà. » Et en gros, t'es juste genre « Ah ok, il cabotine,
d'ailleurs,
très
moi,
bien. »
Pour moi, le Sympathy for the Devil, il fait référence à ça.
Bien sûr. Il y a un jeu, on en reparlera,
mais
il y a de quoi. Et le truc, c'est que jusqu'à ce niveau-là, tu te dis juste c'est un mec qui est complètement pété, qui a une arme à feu, puis voilà. Mais à ce moment-là, tu te rends compte qu'en fait, le mec, non, il n'est pas violent parce qu'il est fou, il est fou parce qu'il est violent. Enfin, il y a, tu sais, c'est l'œuf ou la poule, c'est quoi qui est arrivé en premier, tu sais. Enfin, et tu te rends compte que la raison pour laquelle il est complètement pété, c'est parce qu'il n'a plus rien à perdre, en fait. Et c'est ce moment-là que tu t'en rends compte, parce que si tu es capable d'abattre un flic en plein sang-froid, c'est que tu n'en as mis plus rien à foutre. Donc, il y a ce petit jeu-là qui est sympa.
Et d'ailleurs, il y a un artifice un peu marrant à ce moment-là, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Je ne dirais pas qu'il est subtil, mais j'ai trouvé ça... C'est marrant, c'est que Nicolas Cage, depuis le début, le pointe avec un flingue qui est un flingue un peu genre western avec barillet et tout.
Un revolver, ouais.
Et en fait, un revolver, donc, ouais. Un peu cartoon.
Oui.
Et
oui.
Il se trouve que quand il abat le flic, ensuite il sort un autre flingue qui est un flingue beaucoup plus John Wick, quoi.
Ouais.
et qui passe là-dessus pour finir le flic. Et il y a un peu ce truc de... Visuellement, il change de flingue parce qu'il devient sérieux, tu vois.
Il rigole plus, mais oui, c'est vrai, t'as raison.
Ouais. C'est assez marrant, et à la fois, je dirais que c'est pas spécialement si subtil, et c'est une bonne idée, quoi.
Oh. Non, mais.
Et je pense que ça reflète pas mal de choses du film. Et.
Il y a de l'intelligence dans ce film.
Une des qualités du film, c'est d'être capable d'avoir des scènes. Qui vont avoir des scènes un peu fortes comme ça.
Ouais. Ouais, et
où il arrive comme à surprendre, je trouve.
Et juste après ça, quoi. Et après, t'as une immense explosion. Juste après ça, bah, Nick Cage est un peu de retour en mode. Bon, il est jamais. Tu sais, on dit qu'il cabotine et tout comme ça. Il est toujours dans une position d'agression avec David. Il rigole jamais vraiment. Il se moque de lui. Oui. Il est toujours un petit peu. Mais il commence à lui expliquer. Voilà. Il dit vous êtes sûr que vous êtes jamais allé à Boston? J'ai l'impression que. Ah, t'es sûr que t'as jamais bu? T'as arrêté de boire? Et il commence à lui dire des trucs où tu commences en fait à te rendre compte que non, le mec, il est pas rentré dans une voiture au hasard.
Au hasard.
Et que très clairement, c'est cette personne-là qui est sa cible, malgré le fait que par contre, Kinnaman, il lâche rien. Il n'arrête pas de lui dire non, mais moi je te connais pas. Non, je suis jamais allé à Boston, machin, truc.
Bah, oui et non. En fait, c'est là où le film justement commence à établir son flou,
oui.
C'est qu'il dit je suis allé à Boston, mais une fois.
Une fois, ouais.
Il dit oui, j'ai effectivement arrêté de boire. Mais il dit j'ai arrêté de boire, mais pas dans le sens forcément, je suis un ancien alcoolique. Ouais. Juste, à un moment, j'ai arrêté de boire. Mais il dit ça, mais il lui dit pas non, je suis pas un ancien alcoolique. Et bon, bah, c'est ça va être l'enjeu. Un petit peu de la partie thriller hein, du film, c'est parce que c'est un truc qui va monter tout au long. Nicolas Cage va être de plus en plus insistant à ce niveau-là et va donner de plus en plus de détails sur ce qu'il pense savoir de Kinnaman. Et en face, ça va être ok, nous en tant que spectateurs, est-ce que Nicolas Cage a raison et Kinnaman joue la comédie ou je sais pas moi, a perdu la mémoire
oui.
Ou plein de trucs quoi, ou est-ce que c'est juste Nicolas Cage qui est fou?
Ouais,
c'est voilà, c'est l'enjeu,
c'est et, ouais, c'est ça,
c'est la partie du film qui à mon avis il faut pas mettre, enfin à laquelle il faut pas donner plus d'importance qu'elle n'a.
C'est ça.
C'est un espèce de fil rouge un peu sympa pour faire une étude de caractère. Mais voilà, c'est tout. Enfin, ce n'est pas ce qui va faire ou pas que le film soit bon.
Non, c'est ça. Puis sincèrement, comme tu disais plus tôt, honnêtement, le twist, il est. C'est pas un twist. Donc, il n'y a pas vraiment de... Oui, c'est ça. Si vous essayez de vous baser là-dessus comme critère de qualité, c'est sûr que vous allez être déçu. C'est pas le but, c'est pas le point. Et là, on s'en va sur une scène que moi j'adore, où t'as David qui essaye juste de se barrer en fait du véhicule, qui saute de sa bagnole en mode. Le gars est complètement pété. Et là, tu commences à te dire, mais attends... tu sais, bon... la seule chose qu'on est censé savoir de David Chamberlain, on l'a pas dit, mais c'est qu'en gros, le gars, c'est un gars qui travaille dans un entrepôt, quoi. C'est un type normal qui est pas censé avoir...
ouais, dans un truc d'import.
Voilà. La seule chose, c'est qu'il ressemble à Joel Kinnaman, quoi. Donc déjà, ça aide pas beaucoup, mais voilà, quoi. C'est censé être un gars tout à fait normal, qui est pas spécialement incroyable, et qui apparemment, en une seconde et demie, décide de juste sauter de sa bagnole alors qu'elle est en train de rouler, quoi. Et on parle pas à 30 km/h puisqu'il décide d'accélérer avant de sauter pour s'assurer que pratiquement la voiture se crache, quoi. Sauf que Nicolas Cage réussit en gros à arrêter la voiture, il se pète le nez. Et
mais même juste avant, en fait, il y a une scène juste avant qui va dans le sens de ce que tu dis, où Nicolas, enfin tu vois Kinnaman Nicolas Cage il pose une question à Kinnaman qui répond pas. Et tu sens qu'il est en train de scanner ce qu'il y a autour de lui. Nicolas Cage, il fait « Ok, je reconnais ce que t'es en train de faire. T'es en train de calculer plein de trucs et tout. » Je vois déjà là, t'as une espèce de... Quand t'as vu des films et tout, t'imagines tout de suite genre un agent secret.
Ouais, c'est ça.
Qui t'es, tout de suite, tu l'imagines en mode Jason Bourne.
Ouais, bah c'est ça. Et c'est peut-être ça aussi qui est peut-être le plus intéressant dans l'histoire. C'est que tu sais pas trop encore. Tu te dis « Ah, hein, c'est... Mm-hmm. » Quel type de personne est cette personne, en fait. Et donc là, il y a cette scène où justement Kinnaman saute de la voiture en espérant lui avoir échappé. Malheureusement, Nicolas Cage s'avère qu'il lui a volé son téléphone. Et donc, quand la femme de Joel Kinnaman appelle le téléphone, bah, c'est lui qui répond.
Parce qu'il n'est toujours pas à la maternité, elle ne comprend pas, quoi.
Voilà. Et c'est Nicolas Cage qui répond. Alors qu'il est censé être à côté. Qui cabotine au possible, qui est extrêmement grossier en fait avec sa femme, et en gros il commence à gueuler un petit peu en mode ben regarde, tu sais moi j'ai ton téléphone, je sais où ta femme elle est là, si tu reviens pas, ça va mal se passer. Donc Kinnaman n'est pas idiot, il comprend, il revient, et cette scène me fait, moi j'adore cette scène où
il vient de récupérer le numéro de la chambre de sa femme.
Voilà, il sait où elle est exactement. Et on voit en fait Joel Kinnaman qui s'est littéralement déboîté, disloqué l'épaule en tombant de la voiture, se la remettre en frappant contre la voiture. Et là, t'as Nick Cage qui est genre, mais ça c'est pas un truc que genre un gars qui vient de nulle part sait faire en fait. Et c'est vrai que
et
ça
c'est
commence...
Là où... Et c'est là où effectivement, tu te dis, wow, les gars, peut-être moins de subtilité encore.
Ouais, ouais, c'est ça. Tu te dis, bon, c'est clair que le gars... Mais une fois de plus, tu vois...
T'es pas obligé de pointer tous les trucs bizarres qu'il fait, quoi.
Je pense que le jeu, là, c'est un peu ce que tu disais plus tôt. C'est genre, ah, OK, est-ce que c'est un ancien de l'armée ? Est-ce que c'est un agent secret ? C'est quoi son truc, quoi ? Mais c'est clair, 100%
ouais,
que le mec, il est pas normal, quoi.
Après c'est, tu sais pas à quel point aussi tu t'imagines des trucs, tu survends des trucs parce que Nicolas Cage te pointe dans cette direction, parce que t'as vu des films et que du coup tu te dis c'est toujours ça qui se passe dans les films, il y a forcément un twist.
Ouais.
Le film va aussi un peu jouer là-dessus sur son côté. L'attente en tant que spectateur de il y a toujours un twist, donc forcément ça veut dire quelque chose. Ouais. Alors que ça peut très bien être en l'occurrence l'être humain est capable de trucs de fou dans des situations de stress et de je dirais pas que il y a peu de chances que je fasse ça personnellement, mais par exemple sauter d'une voiture,
ouais bah
on sait pas. Bah, je dirais pas que je pourrais pas le faire. Et sans doute que je le ferais justement mal et que ça serait une catastrophe.
Je pense que sauter d'une voiture, t'as raison, mais je pense que c'est le côté.
Non, mais là, oui.
Zéro regret, quoi. Enfin, tu sais, zéro. Moi, mec, s'il faut que je saute d'une voiture, je me pose la question. Tu sais, j'ouvre la porte, je suis genre, est-ce que je saute ? Lui, il y a pas, il réfléchit pas, quoi.
Mais tu vois, ce qui est assez marrant, c'est. Dans la façon dont ça va dans le film, ça, il y a un petit côté surprise quand même. C'est en fait Nicolas Cage, en gros, il voit qu'il veut peut-être, qu'il a peut-être l'idée de, tiens, je vais me cracher quelque part pour me mettre en état de nuire, quitte à me faire du mal. Et là, Nicolas Cage, il fait un truc qui est assez marrant que j'avais jamais vu, en fait, tu vois, par exemple. Il lui débranche sa ceinture en lui disant, OK, si tu fais ça, bah, je peux dire que tu vas morfler.
Ouais, c'est vrai.
Le fait que, parce qu'il lui a débranché sa ceinture, tout de suite il dit oh ben vas-y je saute.
Ouais.
Non mais ça s'enchaîne. Oh. Du coup le film, tu vois, ça fait partie de ces scènes où il arrive de créer une espèce de surprise.
Non mais c'est ça, t'as raison quand tu dis que il faut pas le prendre pour un film qui est exceptionnellement intelligent non plus, mais il y a des moments où tu te dis merde, en fait, le gars, il y a Luke Paradise qui a écrit ce film, bah, il a quand même pensé à certains trucs qui sont pas si cons que ça, quoi.
Et souvent, je trouve que ça passe beaucoup par la mise en scène, l'impression de surprise.
Ouais.
C'était le cas sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, quand il se fait arrêter par le flic, et là, je trouve que c'est le cas aussi quand il saute.
Et donc là, tout le monde se retrouve une fois de plus dans la voiture, et là on arrive au deuxième décor du film, puisqu'en fait il s'arrête dans un diner pour manger, ce diner de nuit, de matinée, ça a l'air d'être très tôt le matin, donc il y a genre trois personnes dedans, dont une serveuse et un chef. Et on a le droit alors à Nicolas Cage qui passe en mode full exposition et full ça y est, j'ai perdu la boule, dépendamment de votre proclivité, peut vous faire plaisir ou pas. Moi, ça me fait exceptionnellement plaisir tout le temps, surtout quand il prend... En fait, c'est con à dire, mais je trouve que Nicolas Cage est incroyable quand on le fait jouer un petit peu ce genre de personne qui est un peu... Qui est extrêmement strict sur un truc, tu sais, qui est presque limite au CD, parce que le moment où en fait il arrive, il prend un menu et il se rend compte sur le menu qui est écrit pas de substitution, tu peux pas remplacer un ingrédient du sandwich par un autre, et il pète un câble, mais il devient complètement cramé, il est genre mais c'est quoi ce truc là machin, il y a la serveuse qui vient lui parler, qui lui dit ah mais c'est vrai tout ça, et un truc que j'aime énormément une fois de plus avec Nicolas Cage, c'est sa facilité à passer d'une émotion à une autre. Du côté où je suis vraiment fâché, mais je le garde, je le contiens à l'intérieur, et je te dis merci, et je te laisse partir. Et enfin, je pense que c'est le. Pour nous, là, que quand on veut étudier Nicolas Cage et sa façon de jouer, là, je pense que c'est les 20 prochaines minutes du film, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir le voir passer d'un truc à l'autre et puis voilà quoi, donc c'est un truc, un moment que j'aime beaucoup. Et aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il commence enfin à nous raconter. Alors, il avait commencé à raconter un petit peu son histoire et tout ça, mais là, il commence vraiment à nous raconter l'histoire, à nous expliquer en fait, parce que ça prend. En gros, il est en mode, il raconte une histoire, il est en mode, eh oui, une fois à un moment dans la vie, il y avait un bookkeeper, comment t'appelles ça en français, un comptable, I guess, un gars qui s'occupe des livres de comptabilité pour un gangster irlandais de Boston. Ce bookkeeper se rend compte que il y a un des associés du boss qui en fait lui vole de l'argent. Et donc il demande à cet associé, il demande à ce comptable d'inviter l'associé chez lui pour qu'ils puissent se parler. Sauf que quand l'associé arrive, Sullivan, donc le boss irlandais, le bute. Et malheureusement. Les histoires ne s'arrêtent pas là, mais à ce moment-là, je crois que ça ne va pas plus loin qu'ici. Il dit juste, voilà. Et par contre, il dit à David, c'est exactement ce qui va t'arriver à toi, parce que je suis en train de t'emmener vers Sullivan, vers le boss, parce qu'il veut te parler à toi, parce que toi, il te connaît, machin. Et un truc que j'adore avec Kinnaman, à ce moment-là, c'est qu'une fois de plus, il ne donne rien. Ça aurait pu être un moment où en fait il est genre, ah mon Dieu, surprise, on révèle tout maintenant parce que. Et il n'y a rien. Son visage il bouge pas, il est toujours en mode, je sais pas qui, je comprends pas, je sais pas qui. Je suis pas la personne que vous pensez que je suis.
Tu sens que le film. Alors, en tout cas, à la fin de la scène du diner, tu sens que le film va tenir son truc jusqu'au bout.
Ouais, c'est ça.
Mais. Je rebondis, je suis vraiment d'accord sur l'histoire de Nicolas Cage qui pète un cap sur le truc du menu, parce que je trouve que tu vois par exemple c'est un des éléments qui va créer qui va associer un caractère au personnage, tu sais, qui va lui créer un petit peu un background, quelque chose. C'est pas son histoire, c'est plus il rend le personnage un peu plus réel parce qu'il a un tic, il a un toc, il a un truc, quoi. Et ça m'a fait vraiment penser, c'est le genre de truc qui pourrait, de dynamique que tu pourrais avoir dans un truc des frères Cohen, tu vois.
Oui.
Ce truc, en fait, cette espèce d'humour de, t'as l'impression que, comme si c'était pas dans le script. Tu vois, c'est assez naturel. Tu sais, t'as un script très précis, machin, c'est carré. Et là, ils arrivent quelque part, ils repèrent quelque chose. Et en fait, à partir du moment où il y a ça, il va parler que de ça. Et toutes ses actions vont être affectées par ça. Et alors, évidemment que ça fait partie du script.
Bien sûr.
Mais c'est un moment où le script arrive à être assez fluide. Et d'un coup, c'est plus Nicolas Cage qui déclame des phrases et qui fait l'acteur. Là, t'es un peu plus, je sais pas, le personnage prend un peu plus vie, je trouve. Là, ça fonctionne bien, quoi. Et effectivement, après, du coup, il va faire exprès d'être odieux avec les mecs en leur faisant exprès de demander et de même de forcer la main pour avoir une exception, quoi. C'est au truc où il y a marqué pas d'exception sur le menu.
C'est ça.
Ça marche très bien. Ouais.
Il devient de plus en plus unhinged. Il se met à gueuler de plus en plus. Il a vraiment ce côté. Ça y est, là, on est arrivé à un point où en fait, je pense que le gars, il en a marre. Il en a marre que l'autre se foute de sa gueule aussi. En fait, parce que lui, de son point de vue, il a vraiment l'impression que la personne en face, elle réagit pas, il lui donne rien. Et tu sais, la personne qui pense que David Chambola est. N'apparaît pas devant lui, et ça y est, là, il commence à être énervé, et du coup, il commence à le faire ressentir aux autres personnes du diner. Il commence à dire à David Chamberlain que si jamais il continue à faire le con comme ça, ça va mal se passer pour les autres personnes.
Qui vont payer, quoi.
Voilà, c'est les autres qui vont payer.
Comme la démonstration avec le flic au début, c'est
exactement,
qui avait vocation à lui faire comprendre que s'il obéissait pas, c'est pas. En fait, le mec comprend assez vite que Nicolas Cage veut pas le buter.
Ouais.
C'est pas son objectif. Mais il va faire du mal aux gens autour pour essayer de le faire plier.
Et dans un coup de génie de la part de David Chamberlain, si on peut dire ça comme ça. Joel Kinnaman va lui mettre un coup de tête dans son nez qui est déjà brisé à cause de l'accident de voiture plus tôt, quand l'autre avait sauté de la bagnole.
Ouais, alors si on peut juste, parce que du coup, ça arrive un peu dans la deuxième partie du. Juste,
c'est
je vais
vrai,
citer
ouais,
quand même qu'avant, donc il y a Nicolas Cage qui, au début, tu sais, il fait genre. Enfin, il a le flingue dans la poche, mais assez rapidement, il va sortir le flingue et il va menacer tout le monde, machin et
bien
tout,
sûr,
et là, ça part en cacahuète. Et il va aller au jukebox et mettre une chanson et nous faire parce qu'on,
c'est vrai.
On l'a déjà dit, mais le point à Nicolas Cage qui chante, il essaie de le caler quand il peut, quoi. Et là, il y a notamment une petite interprétation de où il chante, c'est qui est marrante, quoi.
Plutôt cool.
Et c'est avant aussi qu'il lui mette un. Et là, avant de faire ça, en fait, quand il commence à s'énerver, il y a aussi un délire où il prend des menottes. On imagine qu'il a récupéré sur le flic et il attache Joel Kinnaman au pied de la table où ils sont.
Oui.
Ce qui lui permet lui de pouvoir se balader, hein, le laisser là sans avoir peur qu'il se barre, quoi. Et c'est aussi avant qu'il mette un coup de tête, il me semble, où il a expliqué que clairement, si le mec lui avouait pas. Tous les mecs du bar allaient morfler et ceux qui allaient rentrer, et n'importe qui rentrerait dans le bar aurait la même punition, quoi. Et là, il y a une mère et sa fille ou son fils qui rentrent dans le bar là. Et c'est marrant parce que, vu ce que t'as vu, enfin, la scène, t'as toujours la scène avec le policier qui est entré dans ta tête et qui te dit, tu t'es fait avoir une fois, tu te dis, oh putain, ouais, du coup, mais là maintenant, je crois à tout en fait.
Ouais.
Et Nicolas Cage, en fait, il parle à ta place, quoi. Et il dit, justement, quand la mère rentre, il fait oh là là. Ouh, ça sent mauvais, hein. C'était marrant, quoi.
Et puis, et justement, quand Kinnaman lui met son coup de tête, il attend pas Nick Cage. La première chose qu'il fait, c'est même pas d'essayer de rattraper Kinnaman qui réussit non qui est toujours attaché à la
oui c'est ça
à la table s'il commence à tirer sur tout le monde en fait qui d'ailleurs prennent prennent un peu cher malheureusement
ouais bah le il y avait un trucker un conducteur de poids lourd qui se fait tuer. T'as le cuisinier qui se fait abattre dans le dos.
Ouais.
Et après, par contre, bon, il laisse la mère partir avec son enfant et il laisse aussi la serveuse en vie.
Il y a une petite interaction avec la serveuse qui me fait vraiment rire. Parce ouais. Un petit peu plus tôt, en gros, quand il demande s'il peut changer pour mettre du cheddar à la place d'un autre fromage, elle lui dit non, tu peux pas, mais si tu veux, je t'amènerai des blocs de cheddar à côté. Et t'as Nick Cage que tu vois sur son visage qui est genre, est-ce que tu fous de ma gueule ou pas? Il sait pas trop, il est pas trop sûr. Et après, en fait, il la retrouve dans les toilettes, il la braque et lui fait, oh, tout à l'heure, tu t'es foutu de ma gueule ou pas? Et là, elle est genre, elle est en train de pleurer, elle fait genre, non, je me suis foutu de ta gueule. Fait genre, bon, ok, allez, barre-toi. Justement, parce
j'avoue que là,
il lui a pas menti.
Ouais, je savais pas trop, j'ai pas senti que c'était forcément cohérent avec le personnage, mais je savais pas trop quoi penser.
J'ai l'impression que c'est plus genre, en fait, comme tout le monde lui a manqué de respect jusque-là,
ouais, ouais.
Comme là, elle est respectueuse, entre guillemets, elle lui dit la vérité, elle est genre, ok, barre-toi. Ouais.
En même temps, je trouve que le film l'a pas mis en place, ça, ouais. Et du coup, que c'est un peu bizarre.
C'est
en fait, on l'a pas forcément dit, mais en fait, Nicolas Cage, son personnage, il agit pas comme un fou. Non. Il agit de manière très méthodique.
Ouais.
Y a plein de trucs où, justement, j'ai trouvé que c'était limite un peu beau de le voir. Tu sais, il y a une espèce de chorégraphie, tu vois, par exemple, quand il va braquer tout de suite, il va rentrer dans la cuisine, péter le téléphone, leur demander le téléphone portable, les jeter dans la friteuse. Tu sais, il y a ce truc de, je sais pas, c'est très, il pense rapidement, machin. Et du coup, les moments où il montre un peu d'émotion, je sais pas, si c'est pas amené, là, j'ai trouvé que cette scène était un peu bizarre, tu vois, par exemple, je l'ai pas forcément compris.
Si tu regardes depuis le début, en fait, tu te rends compte que le mec hurle sur les gens, mais vraiment, quand les gens lui manquent de respect. Tu sais, genre, la première fois qu'il gueule sur Joel Kinnaman, c'est-à-dire qu'il rentre dans la voiture, il a son flingue, il le pointe, il lui dit « choisis une carte », et ben, il lui gueule dessus parce qu'il choisit pas une carte. Il est genre « putain, je t'ai demandé de choisir une carte ».
Et ouais, en gros, c'est en soi le cuisinier et puis le trucker, ils se font abattre juste parce qu'ils ont essayé de partir quoi.
Je pense que ça c'est parce que justement David Chamberlain vient lui de manquer de respect et qu'il lui avait dit ce qui allait se passer si jamais c'était
ouais,
le cas.
Bien sûr.
Je pense que c'est un peu ça.
Je vois pas forcément de différence entre eux qui se font abattre et elle qui se fait pas abattre quoi.
Non.
C'est un peu bizarre quoi. T'as vraiment l'impression qu'il bute les mecs et pas les meufs. Après, il l'explique un peu après, mais je sais pas, j'ai trouvé juste, voilà, que c'est.
Non,
que mais... ça me choque pas forcément, mais que on n'a pas eu les antécédents nécessaires pour que ça passe, que ça soit naturel.
Je suis d'accord que ça manque un petit peu de, c'est pas si bien amené, mais moi, je l'extrapole de ce que j'ai vu avant.
Oui,
on va dire.
Oui, puis le film part sans le temps, voilà.
Mais je suis d'accord que s'ils avaient rajouté un petit peu plus de ça, ce serait passé un peu mieux. Et, puis d'ailleurs, après, je croyais il la sauve entre guillemets parce qu'après il fout le feu au diner et on sait pas vraiment si elle se barre ou pas. Il me semble que si,
on
mais
sait pas,
on sait pas vraiment.
Bah, on dit rien, mais bon, on parle du principe que oui, mais
ouais, on assume qu'elle se barre.
Mais c'est vrai que là, le film part sur une scène auquel je m'attendais pas. C'est en fait donc Kinnaman, pendant que lui il a que Cage va buter un peu tout le monde, il arrive finalement à se libérer. Et il sort, et en fait, bon, Nicolas Cage met effectivement le feu au diner, et du coup, il y a une espèce de confrontation, partie de cache-cache un peu classique, où il se cache, tu sais, Kinnaman se traîne pour se cacher entre les voitures, et Nicolas Cage lui sort après. Sauf qu'il y a vu qu'il y a le feu et tout, on est vraiment dans Dune.
Oui.
C'est les mêmes couleurs, tout est jaune, il y a de la fumée, du coup, c'est vraiment un côté très, bah, c'est assez beau visuellement, mais c'est vraiment Dune.
Ouais. Puis, c'est vrai que. On peut facilement l'oublier, surtout dans le film et tout, mais enfin, si je veux dire, Las Vegas, c'est le Nevada, c'est le désert et tout ça. Et je trouve que ce moment-là, il te fait vraiment te dire merde, en fait, ouais, on est dans le désert, en fait. Mm. On n'est pas loin du désert. Il y a du sable autour de ces trucs-là, on le sait. T'sais. Et ouais, t'as raison, on se retrouve un peu dans Dune et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a ça.
Je sens que le film a voulu se dire, allez, vas-y, je vais mettre un petit quart d'heure avec une ambiance visuelle d'une autre couleur.
Ouais.
Pour avoir de la variété.
Oui, parce qu'on l'a peut-être pas trop dit, mais c'est vrai que, bon, à l'instar des vêtements de Nicolas Cage et des cheveux de Nicolas Cage, le film est surtout entouré de rouge. C'est très très rouge.
Oui, oui, bah, c'est ce qu'on a dit un peu au début. C'est la nuit avec des néons.
Oui, mais des néons rouges. Plus que le reste. Oui. C'est où il y a du bleu, où il y a du violet, mais c'est très rouge. Et puis là, c'est vrai que soudainement, c'est orange et un peu de la fumée du sable. Et on a le droit à une autre vague d'exposition de Nicolas Cage qui explique en fait que quand le boss irlandais a fait venir son assistant, enfin son associé, il l'a abattu. Malheureusement, c'était chez le comptable. Il y avait donc sa femme qui était là et qui a vu le meurtre arriver. Et malgré le fait que la femme avait l'air de savoir, entre guillemets, ce que faisait son mari, le boss irlandais lui dit « Ta femme est c'est une liability, c'est un... »
C'est un danger, maintenant.
C'est un danger pour nous, maintenant. Il faut donc s'en débarrasser. Et il demande donc à un homme qui s'appelle James Levine, qui est en fait ce qu'on appelle un fixeur, mais on peut appeler ça aussi un assassin, qui est donc venu et qui a tué donc la femme et la fille du comptable en foutant le feu à la maison, ce qui est une fois de plus extrêmement drôle puisque tout est en train de brûler autour et que c'est thématique. Voilà. Et comme on disait plus tôt, la subtilité est partie par la fenêtre. Merci, bonsoir.
Oui, puis en fait, le moment où il lui dit ça... Enfin, il le dit en deux parties, en fait. Le moment où il lui dit ça, qu'on a l'histoire complète, il lui dit clairement que, en fait, c'est lui.
Oui,
c'est,
oui.
C'est sa femme et sa fille qui sont mortes à ce moment-là. D'ailleurs, en fait, il y a une espèce de confrontation. Justement, il y a la confrontation dans le parking, là. Et on croit que Kinnaman va prendre la main, et puis finalement, Nicolas Cage reprend le dessus.
Ouais.
Et là, Kinnaman accepte de reprendre la route et de le conduire là où il veut s'il laisse sa femme tranquille. Là, j'ai trouvé que le film... J'ai un peu trop senti que le film s'était dit « Bon, ok, il faut que je passe à autre chose et que j'aille sur mon dernier tiers. » Là, Kinnaman, il accepte un peu trop facilement. C'est un peu bizarre.
Ouais.
J'ai trouvé ça un peu brusque et tout. Surtout que la seconde d'avant, clairement, il avait le dessus sur Nicolas Cage. C'est même au niveau de la suite, c'est un peu bizarre. Mais bon, là, j'ai senti un peu les ficelles. Mais bon.
C'est toujours un peu drôle aussi quand tu... Enfin, je veux dire, no offense to Nick Cage. Hein. Nick Cage est une personne qui est très clairement en forme. Mais quand t'as un mec en face qui est Joel Kinnaman, qui est une brute et qui a des muscles comme pas possible et qu'il se fait, il se fait ramasser par Nick Cage, c'est un peu drôle, quoi.
Le film... s'en sort vraiment bien pour que ça soit pas choquant du tout.
Non mais c'est juste c'est
Kinnaman,
juste l'image.
il apparaît quand même assez enfin pas il est pas physiquement imposant quoi.
Non pas que il a fait des films où il était beaucoup plus imposant que ça, mais il y a quand même ce côté un peu sens que le mec s'il voulait il pouvait et il veut pas quoi. Enfin donc c'est un peu amusant. Il y a un peu ce côté-là, mais t'as raison le côté parce qu'au final c'est vraiment littéralement Nicolas Cage qui lui dit tu sais moi chez Wally ta femme si tu t'enfuis je vais la tuer quoi.
Il y a un autre truc là parce que donc effectivement Nicolas Cage est la personne qui a perdu sa femme et sa fille là-dessus, et on a aussi appris même un peu plus tôt au moment du diner que Nicolas Cage pense que David est
James Levine qui a brûlé sa maison
parce que et justement là Kinnaman a entre guillemets avoué que c'était lui pour en fait que Nicolas Cage ne tue pas la femme et son enfant dans le diner. Il y a ce côté il allait buter, il a dit oui ok allez c'est moi, parce qu'il sentait que c'est ce que voulait que Nicolas Cage voulait qu'il lui dise quoi. Donc il y a ce truc que là on est maintenant dans une situation où on a l'info là-dessus et Kinnaman joue le jeu, puis après lui dit une fois qu'ils sont sortis du diner non franchement je sais pas. Tu me prends pour quelqu'un que je ne suis pas, quoi.
Oui, voilà, il retourne sur la route, ils sont en train de conduire, et là, David lui demande pourquoi, en fait, tu m'as pas juste tué quand t'es rentré dans la voiture? Et alors, est-ce qu'on y va en mode prudent et on se fait une petite zone spoiler ou pas?
Ah bah, je pense qu'il faut.
Je pense qu'il faut, même si personne qui nous écoute...
Je pense qu'il faut, parce que comme ça, on pourra se permettre d'en parler librement.
Oui, voilà. Donc, on va vous faire une petite zone spoiler, là. Comme toujours, on vous dira à partir de quand vous pouvez revenir si vous avez besoin. Et on se retrouve juste après la zone spoiler pour ceux qui ne veulent pas entendre de spoiler. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite. Bienvenue dans la zone spoiler pour Sympathy for the Devil. Si vous ne voulez pas entendre le spoiler, rendez-vous à 1h24 et 26 secondes. Donc voilà, on est dans la zone spoiler. Et donc, comme vous l'avez deviné probablement en nous écoutant, il est tout à fait clair qu'on apprend que oui, c'est bien lui. Joel Kinnaman est en effet James Levine et il le...
Déjà, je dirais pas que c'est si évident.
Alors, mais c'est, en tout cas que...
Et on l'apprend pas tout de suite encore.
En tout cas que David Chamberlain est bien la personne que Nicolas Cage cherche depuis le début. Ça, on l'avait plus ou moins reconnu.
En tout cas, le film accepte pas de te le dire pour l'instant. Il veut encore...
Moi, j'étais déjà dans le truc, là. Je pensais qu'on...
Non.
Excuse-moi.
Parce qu'en fait...
J'oublie un morceau.
Je trouve que la révélation...
La façon manière dont elle est faite révèle est super cool.
Est vraiment bien foutue.
Oui, ça, je suis d'accord.
C'est qu'en fait, là, donc il y a ce moment, ça s'échauffe, et là, ça y est, ça devait arriver. Kinnaman fait exprès. Enfin, il y a la police qui commence à les suivre, et là, il y a Kinnaman qui fait exprès de se cracher.
Ah non, mais attends. Non, justement, c'est ça le truc. C'est.
Oui, mais la révélation, elle est après. Elle est avant.
Parce que attends, je t'explique. Parce que alors tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est parce que ce moment-là, je m'en souviens extrêmement bien. C'est-à-dire qu'en gros, il lui dit ah, pourquoi est-ce que tu m'as pas tué? Et il lui dit mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est te faire souffrir, de la même manière que tu m'as fait souffrir. Ce que je veux, c'est que tu avoues,
que tu dises à voix haute les mots,
tu dises à voix haute et que tu me l'avoues que tu as tué ma famille. Et là, il lui dit c'est Sullivan qui a demandé de faire le hit, donc c'est Sullivan qui lui a demandé de tuer sa femme, et là il se crache, et donc dans ce moment-là tu sais que c'est lui en fait, il y a pas de
ouais, sauf que moi je l'ai pas compris comme ça.
Ah toi tu l'as pris comme genre il lui
moi je l'ai pris dans le genre il tente un coup
ah non moi c'était parce que c'est ses yeux, c'est les yeux de
ouais mais franchement, je pense que le film est plutôt de mon côté.
Okay,
parce que sinon, c'est pas logique ce qu'il fait après.
Ah, t'as
parce
raison.
Qu'en fait, pour
oui, il fait.
Le film, la façon dont il le met en scène.
T'as raison, il fait genre.
Pour moi, c'est un côté.
J'ai oublié ça.
Il essaye de. Je sais pas, de le. Il essaye de. De gagner du temps parce qu'il va se cracher ou il essaye de le... Parce qu'en fait, il veut pas qu'il soit concentré sur la route. Je sais pas, il tente... En fait, il dit ça. Juste après, il lui met des flammes de cigarette sur les yeux. Et là, il en profite parce que du coup, il a plus le flingue sur lui pour le se cracher. Donc, je sais pas. Moi, je l'ai compris comme ça. Et peut-être c'est pas le cas. Peut-être c'est juste qu'il avoue parce qu'il sait qu'il va cracher. Mais en même temps... Le film, après ça, enfin, j'ai l'impression que le moment où le film va faire la grande révélation, elle est pas là, quoi.
C'est drôle, parce que moi, c'est vraiment ce moment-là où j'étais genre, ok, il y va. Là.
Bah ouais, mais du coup, ça atténue ce qui se passe après, je trouve. En fait, parce que là, donc, il y a le crash, et là, c'est là où je trouve que il y a notamment pas mal de plans très jolis.
Ouais.
Pourtant, des plans assez classiques, mais je sais pas, dans la composition, c'est réussi. T'as, donc, la voiture est à l'envers. En haut de la colline, t'as les flics. Il y en a deux qui sortent, qui commencent à descendre. Nicolas Cage est dans la voiture, il est au sol, il a ramassé, quoi. Et d'un coup, deux coups de feu, les deux flics tombent au sol. Et donc on comprend que c'est Kinnaman qui les a tués. Et donc, c'est pas un gentil père de famille, quoi.
Voilà.
Et pour moi, le film, il veut te faire la révélation à ce moment-là. Donc du coup,
ah, ouais.
Pourquoi? Mais dans ce cas-là, c'est. Mais du coup, je suis assez d'accord que c'est une maladresse.
Je suis d'accord avec toi que si c'était là,
tu atténues le moment, le fort que tu veux créer. Et d'ailleurs, même avec ça, je trouve que ça marche. Mais parce que moi aussi, je me suis vraiment tout de suite dit, ah ok, il essaie de le bluffer quoi.
C'est. Mais tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que si c'était le but, il aurait fallu qu'il aille plus que ça. Ou alors oui, l'enlever. C'est soit c'est plus clair, soit tu l'enlèves. Et je pense que tu aurais eu exactement ce
que pour moi, il aurait fallu l'enlever, que ça ne servait à rien. Ouais. Parce qu'il y a le truc de la cigarette qui fait que c'est ça la distraction.
Ouais. C'est vrai.
Parce que du coup, clairement, en tout cas, la scène qui réussit, c'est ça, quoi.
Et justement, et après, donc, on apprend ensuite, voilà, donc on a le droit à Kinnaman qui. Vu que Nicolas Cage est en train de mourir, de se vider de son sang, Kinnaman, entre guillemets, l'achève en l'étouffant, tout en lui expliquant que oui, c'est bien lui, et qu'il n'avait jamais eu envie de tuer ses enfants, qu'en gros, il avait été embauché pour tuer sa femme, mais que le fait que sa fille soit aussi là, ça, c'était un problème, et que d'ailleurs, il pense que c'est à cause de ça que son premier enfant est mort.
Ouais, là, ça part en cacahuète, je comprends plus trop où ça va, mais tu te dis, putain, il est taré aussi, quoi.
C'est le copium, là, il est en mode, j'ai payé parce que mon fils est mort et du coup voilà, je suis un homme normal et du coup c'est ça que je trouve super intéressant parce que pour terminer le film en gros il s'assure que la police pense que ce soit Nick Cage qui a tué les flics et lui il est content, sa femme vient d'accoucher, c'est une fille je crois et elle va bien et tout va bien et moi ce que je trouve le plus intéressant au fait, ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que le titre du film, donc Sympathy for the Devil, il n'est pas pour Nick Cage, il est pour David Chamberlain, il est pour James Levine, parce que pendant tout le film, tu as de la sympathie pour ce mec-là, alors qu'en fait, tu te rends compte que, non, c'est...
Moi, je ne l'ai jamais pris pour Nick Cage, de toute façon.
Ça va assez vite. En fait, tu t'en
très, non, très mais vite. Non, ouais, mais ouais, ça m'a même pas... Mais... En fait, il utilise vraiment le mot... Il utilise le mot sympathie.
Oui,
dans le film,
oui.
Vu que c'est... Mais encore une fois, pas subtil.
C'est ça le truc, c'est que je pense qu'un film... Honnêtement, ce film... Moi, je suis d'accord avec le fait que je pense que ce film aurait été plus intéressant s'il avait été un peu plus subtil. Pas forcément que... Même pas forcément les story beats. Tu sais, genre, tu gardes le même truc, mais tu gardes le truc subtil un peu plus subtil.
Oui,
comme ça,
tu baisses, t'appuies un peu moins sur la pédale, quoi.
Parce que le but, il est là. Parce que je pense que l'objectif, il est vraiment là. Puisque en fait, pendant tout le film, on a Nicolas Cage qui veut lui raconter son histoire parce que il veut avoir de la sympathie. En gros, le film te fait croire que on essaye de donner de la sympathie pour le personnage de Nicolas Cage, alors qu'en fait non, le switcheroo, c'est que pendant tout le film, on te fait avoir actuellement de la sympathie pour un autre gars, alors qu'en fait c'est un pur bâtard à la fin, quoi. Et je pense que c'est ça le vrai twist, plus que le fait que l'autre truc.
Bon, par contre,
ça marche ou ça marche pas.
Sur la fin, moi j'ai un gros problème avec Kinnaman, c'est... Et le film, je le trouve, est vraiment ridicule sur Kinnaman qui force à avoir une expression du visage différente quand il reprend la personnalité de comment il s'appelle,
James,
et après il se remet encore un autre. Enfin, là, c'est vraiment le mec qui fait acteur studio, quoi.
Un petit peu.
J'avoue que là, j'ai été un peu de cringe devant ce moment parce que. Ah, il le joue très mal.
Je suis un peu d'accord avec toi, puis c'est vrai que le côté...
C'est un peu genre le... Tu sais, le théâtre japonais où ils avaient des masques. Ouais, sauf que là, il le fait avec son visage, quoi.
Ouais, quand t'as Nicolas Cage qui fait ça tout le film, peut-être qu'à la fin, il s'est juste dit, allez, j'essaye, puis...
Pas capable. Ouais, mais non, Nicolas Cage, il fait pas exactement ça tout le film. Là, c'est vraiment... Tu sais, c'est le truc où tu passes la main devant ton visage, tu fais une gueule qui...
Je suis méchant.
Tu repasses la main devant ton visage, tu fais une gueule qui sourit. C'est ça qu'il fait. Et bon. Et voilà.
Puis c'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose.
Ouais, c'est pas pu, très grave.
Mais le pire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui aurait pu vraiment être excellent si ça avait été joué subtilement. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui il vient quand même de passer genre 4 heures avec un gars qui essaie de le tuer. Il aurait pu avoir juste être énervé, quoi, juste être méchant. Mais non, il est juste genre.
Ouais, ou un truc de relâchement de je peux me comporter de manière normale. Et, et en même temps, c'est pas vraiment ça que le film dit. Parce que là, en fait, il reprend une espèce de personnalité qui s'était autant enlevée.
Ouais.
Et d'ailleurs, mais non, mais c'est pas. Mais tu vois, juste le fait qu'à la fin, avant que les flics arrivent, il se répète je suis David Chamberlain, je suis David Chamberlain. Limite, ça suffisait.
Oui.
Pour qu'on comprenne la psyché de. En fait, il s'est vraiment auto-convaincu, quoi.
Oui, oui.
D'ailleurs, le Nicolas Cage, je le dis un peu plus tôt.
Oh, il est convaincu que c'est. Une
il n'avait pas besoin de faire des mimiques comme ça. Enfin bon, bref. Ouais.
En tout cas. Donc voilà, ça c'était la fin de Sympathy for the Devil. Et pour les gens qui ont voulu sauter le spoiler, re-bienvenue. Et donc, alors, je pense qu'on a déjà un petit peu fait le tour. Pour moi, je l'ai revu.
Non, c'est rapide.
Mon opinion n'a pas changé. Je trouve le film quand même vraiment cool. Passe un bon moment, quoi. Et on a deux acteurs qui honnêtement, ils font le film, quoi. Ils font le film.
Oui.
Puis voilà, donc pour moi, c'est clair que ça reste un film que je conseille, sincèrement. Je le conseille, sans problème.
Je suis d'accord. Je pense que si c'est comme régulièrement dans les films qu'on évoque, c'est des films qui seront plus intéressants à visionner quand on a un vrai regard critique. Limite, on regarde le film pour l'analyser.
Ouais.
Plutôt que juste en tant que spectateur, un peu avec sans prise de tête. C'est aussi. Enfin, on va du coup s'attarder sur des choses que. On va essayer de trouver des points intéressants. On va se forcer à trouver des points intéressants et du coup, on va les trouver. Parce que le film en a. Donc. Peut-être qu'il y a ça qui rehausse aussi notre intérêt de visionnage. Mais quoi qu'il arrive, je pense que si vous prenez le film pour ce qu'il est, enfin, que vous attendez pas un truc... enfin, voilà, vous y allez sans attente particulière, vous allez, je pense, passer un bon moment, quoi. Vous aurez peut-être oublié le film dans quelques semaines.
Oui.
Mais c'est pas grave, quoi. Mais quand vous en reparlera, vous direz « Ah oui, non, mais c'était sympa, ça. »
Oui. Ben c'est ça, moi, c'est ce final, tu vois.
Il en faut.
Je l'ai vu en juillet de 2023, donc ça va faire 8 mois. Et des fois, tu me dis le nom, je suis genre, bah oui, voilà, c'était sympa, je suis content. Et donc,
voilà.
Pour dire ça, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de notre podcast par rapport à Nick Cage. Et bon, on a quand même déjà pas mal dit, parce que bon, il faut connaître que pour le coup, c'est vraiment un film de, comme tu disais, un character study de deux personnages. Donc les deux sont à l'écran tout le temps. C'est difficile de parler de ce film sans parler de Nicolas Cage.
Les deux sont à l'écran, mais c'est Nicolas Cage qui vraiment drive le film.
Bien sûr. Il vole un peu la vedette, mais je dirais Kinnaman n'est pas. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que Kinnaman se fait
C'est fait exprès.
Kinnaman se fait pas. Gerté non plus de l'écran, quoi. C'est juste que il y a beaucoup de moments dans le film où il y a juste Nicolas Cage à l'écran. Et c'est assez intéressant. Ça fait que, tu vois, on a une performance qui est peut-être moins nuancée qu'on peut l'avoir. C'est-à-dire qu'il passe vraiment par des extrêmes d'émotions. Il va dans toutes les émotions, mais il n'y a pas tant de. Il n'y a pas tant de transition, on va dire. Ce qui peut être jarring pour certaines personnes, mais que personnellement, moi, je trouve génial. Et donc, comme tu disais, si on essaye d'y donner une note, qu'est-ce que tu dirais, toi ?
Alors, du coup, deux notes.
Deux notes.
Une, on le rappelle, parce que peut-être que des gens ont oublié, ou
que
des gens prennent le train en marche après 100 épisodes, mais...
Ils ont de quoi se rattraper, oui, après, c'est bien.
Ouais, ils se sont dit, oh putain, ils ont fait 100 épisodes, bon, ça peut pas être si mauvais.
détrompez-vous.
Bref, deux notes, une pour l'angle de la folie et une pour la performance.
Voilà.
Sur l'angle de la folie, moi, je te proposerais bien un petit 8,5. Parce que je pense qu'il est. On l'a dit, c'est le Nicolas Cage que les gens imaginent quand ils pensent à l'aspect rigolo de Nicolas Cage, quoi. Pas tout le long du film, mais il y a les moments. Et tu vois, par exemple, Ghost Rider 2, on avait mis 8,5, et je me demande si on n'est pas là-dedans, quoi. Et Bad Lieutenant, on avait mis 8, et je pense que Bad Lieutenant, c'est un peu en dessous de
celui-là. Color Out of Space, on avait mis 9, tu vois.
On avait mis 9.
Mais c'est vrai que Color Out of Space, il y a le côté horreur qui joue bien.
Il y a des moments plus extrêmes.
Ouais. Je suis d'accord.
Et peut-être aussi qu'on avait mis un peu beaucoup.
Mais c'est aussi parce que, par contre, comme tu disais plus tôt, le personnage est, méthodique dans Sympathy for the Devil. Mm. Dans Color Out of Space, il est juste batshit insane. Donc je pense que ça joue.
Il est littéralement fou.
Ouais. Donc je pense que ça joue. Je pense que 8,5, ça passe très bien pour la folie. Oui, parce que mais comme je disais, tu vois, c'est parce qu'il y a des pics en fait. C'est vraiment il y a des pics. Ouais. Mais si tu fais un average, une moyenne de tout ça, ouais, je pense qu'on se retrouve bien à 8,5. Mais il y a des moments, le pic là, il y a certains pics, il serait presque à 9,5, mais bon, ça reste c'est une note moyenne. Et puis pour la performance. Moi, j'irais vers un 7, 6,5, 7.
Moi, j'étais parti sur un 6.
Parti sur un 6. Ben, coupe la poire en deux. On va faire un petit 6,5. Parce que
on peut mettre un 6,5.
Je trouve qu'il y a quand même, il y a quand même de la nuance quand il a envie. Il est quand même capable de se ramener quand il a envie.
Il y a un peu de tout, ouais.
Mais c'est vrai que c'est pas celle qui va. C'est pas Pig, c'est pas.
Effectivement, il y a des moments à 5 et des moments à 7.
Ouais.
Donc, Il y a des moments qui sont voilà qui sont plutôt où il dépasse la limite quoi, et il y a aussi plein de moments où il le fait bien quoi. Donc ouais, ça me va. Écoute, 6,5, je valide, on est d'accord.
Et je pense que ça couvre toutes nos options et ça nous conclut bien cet épisode.
Ça conclut effectivement la discussion sur Sympathy for the Devil, et ça nous permet de vous parler de la suite. Le rythme est évidemment un petit peu décalé, mais là on a quand même un programme, parce que Nicolas Cage il sort par série un peu ses films, et donc là on a eu le droit à un petit enchaînement, donc on devrait être sur un rythme de sortie mensuelle là pour les prochains mois. Avant peut-être à nouveau un petit écart parce que d'ici que les suivants sortent, parce qu'on veut attendre un peu quand même pour pas réagir forcément à chaud, ou en tout cas vous laisser le temps de les voir. Donc dès le prochain épisode, on va parler de The Retirement Plan, un film dans un ton un peu différent, un peu moins serious business. Un Nicolas Cage qui joue un personnage qui a quelques années de plus, donc qui fait ses grands écarts d'âge. Voilà, et puis d'ici là, vous pouvez nous suivre évidemment sur les différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, c'est @CitizenCagePod ou _pod, je ne sais plus moi.
C'est trop vieux. Non plus.
Il faut que j'aille vérifier. C'est Citizen Catch Pod, voilà. Sans le _. voilà, on est un peu rouillé. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applis, tous les services de podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur les applications type Podcast Addict. Voilà, vous avez le flux RSS sur les réseaux sociaux, sinon vous cherchez juste Citizen Cage et vous allez nous trouver, peu importe la plateforme, franchement. Ouais. Même sur Google, écoutez, on vous autorise. Vous cherchez sur Google comme vos parents.
Voilà.
Comme vos parents font. Vous tapez Google dans Google et ensuite vous tapez Citizen Cage. Voilà. Et vous nous trouvez et c'est parfait. Et voilà, j'ai tout dit. On se retrouve du coup le mois prochain pour parler de The Retirement Plan. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.
À la prochaine tout le monde.